Alors, je vous présente le conférencier de ce soir, après cette longue introduction. Il s'agit de Marcel Gauchet, que je suis ravi d'accueillir, qui va nous parler de croyances politiques, croyances religieuses. Il est né en 1946, il est philosophe, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et rédacteur en chef de la revue Le Débat. Ses objets de recherche et d'investigation sont la technoscience, la crise de l'État-providence, les médias, le travail, les croyances aussi, bien sûr, et ses publications, je vous les indique. Il a publié en collaboration avec Gladys Swain en 1980 « La pratique de l'esprit humain » chez Gallimard. En 1985, « Le désenchantement du monde », toujours chez Gallimard. En 89, « La révolution des droits de l'homme », « La révolution des pouvoirs » en 1995, et enfin, dernier en date, « La religion dans la démocratie », édition Gallimard, collection Bibliothèque des histoires, en 1998. Voilà, je vais lui passer la parole pour une cinquantaine de minutes, et ensuite il répondra à vos questions. Je vous remercie.
Je vais vous parler donc des croyances religieuses et croyances politiques. Il y a deux manières de prendre le problème. Une manière analytique qui consisterait à s'interroger d'abord sur la nature et sur la place de la croyance dans le fonctionnement de l'esprit humain et à se demander ensuite ce qui spécifie la croyance religieuse parmi toutes les croyances possibles, puis ce qui apparente et distingue la croyance politique de la croyance religieuse, en commençant par ce qui fait de la politique un objet de croyance. Et puis, il y a une manière historique de traiter la question. C'est celle que j'adopterai. Cette paire de notions, en effet, croyance religieuse, croyance politique, ramasse en elle l'essentiel du mouvement des sociétés et du mouvement des esprits depuis deux siècles. Elle désigne ce qui me semble devoir être tenu pour le fait générateur des sociétés contemporaines, à savoir le processus de sortie de la religion. Elle recouvre le passage d'une société hétéronome, structurée par la religion, à une société autonome qui se donne sa propre loi et qui se propose l'autogouvernement pour idéal. Une société qui développe, pour ce faire, un discours sur elle-même en rupture avec le discours religieux et des croyances au sujet d'elle-même d'un autre ordre que la croyance religieuse. Nous pouvons nommer idéologie ce nouveau type de discours et de croyance. C'est ce passage de la religion à l'idéologie, de la croyance religieuse à la croyance politique, que je m'attacherai à décrire dans un premier temps. Je m'efforcerai à partir de là, dans un deuxième temps, de dessiner en parallèle les trajectoires de la croyance religieuse et de la croyance politique. Il s'agira d'un côté de se demander ce que devient la religion dans un monde qu'elle n'organise plus. Il s'agira de l'autre côté d'examiner ce que les idéologies empruntent dans leur développement à la religion qu'elles remplacent. Elles peuvent, à l'occasion, lui emprunter beaucoup, comme le montre ce qu'on a pu appeler religion séculière. On verra, enfin, au bout de cette trajectoire, dans un troisième et dernier temps, que nous sommes en train de vivre un moment remarquable de cette longue histoire. le moment de la dissociation en profondeur de la croyance religieuse et de la croyance politique. Cette dissociation les change l'une et l'autre. Ce passage de la religion à l'idéologie, tel que nous le voyons s'accomplir en Europe entre 1750 et 1850, date ronde, de part et d'autre de la Révolution française, a son expression la plus spectaculaire dans le basculement du temps social légitime du passé vers l'avenir. La croyance religieuse est une croyance dans l'autorité du passé. La croyance politique qui émerge à la faveur de ce renversement est une croyance dans l'autorité du futur. Le passage du monde de l'hétéronomie au monde de l'autonomie tourne autour de l'avènement de la conscience historique, c'est-à-dire la conscience du caractère producteur du devenir. Toutes les sociétés sont historiques, en ceci qu'elles sont soumises au changement. Pour autant, elle n'attribue pas nécessairement un caractère générateur à ce changement. C'est même le contraire. Elles se sont pensées en général, à travers toute l'histoire, comme immuablement définies dans leur ordre essentiel, en tout cas par des puissances supérieures. C'est en cela que consiste proprement le choix de religion qui a dominé la plus grande partie de l'histoire humaine. Dans ce déni de la puissance de se définir et de se constituer soi-même, et dans l'attribution de ce pouvoir à d'autres, à des êtres d'une nature surnaturelle, ancêtres fondateurs, dieux ordonnateurs ou dieux uniques, créateur. En regard, la rupture caractéristique des sociétés modernes réside dans la réappropriation de cette puissance de se faire. Elle passe par la reconnaissance de l'histoire comme engendrement de la collectivité par elle-même dans le temps. L'apparition du thème du progrès autour de 1750 en représente une première étape. C'est en cela que va consister l'autonomie. Pas dans le gouvernement abstrait de soi, mais dans la production concrète de soi. Aussi, la conscience de l'histoire ne se résume-t-elle pas en une conscience passive de la force génératrice de la durée ? Elle se prolonge dans une conscience active de la nécessité d'œuvrer à ces transformations productives. La société qui sort de la religion est une société qui s'organise en vue de son propre changement pour le mieux. Une société où l'ensemble des activités individuelles et collectives s'oriente vers l'avenir comme le temps par rapport auquel se joue la puissance sur soi. Ce devenir qui a produit le monde où nous sommes appelle le déchiffrement et l'explication au passé. Il appelle des choix au présent qu'il faut justifier. Il demande d'imaginer le futur de le prévoir, d'en percer l'énigme. C'est à l'ensemble de ces réquisitions que va répondre l'idéologie comme croyance politique. Détaillons davantage, même si mon propos reste succinct, ce passage décisif. Il est indispensable pour ce faire de remonter en deçà de la religion comme croyance individuelle telle que nous la connaissons aujourd'hui. La religion a été primordialement et jusqu'à une date récente, une manière d'être des sociétés, un mode de structuration des sociétés humaines. C'est ce que condense la notion d'hétéronomie. La croyance religieuse, dans ce cadre, bien au-delà des représentations et des convictions des individus, engage l'organisation collective. Elle est croyance dans l'autre surnaturel qui vous donne votre loi commune, d'ailleurs et du dessus. Or, cette dépendance envers l'invisible est simultanément dépendance envers le passé. L'ordre hétéronome est foncièrement passéiste. La corrélation n'est pas évidente dans l'abstrait, et pourtant elle est capitale pour comprendre le fonctionnement et les formes des sociétés de religion. L'extériorité métaphysique radicale du fondement implique l'antériorité temporelle du fondement. Nous ne sommes pour rien dans l'ordonnance du monde où nous vivons. Elle nous est essentiellement donnée et imposée par plus haut que nous. La supériorité de sa source se marque dans sa précédence par rapport à la volonté humaine. Elle domine celle-ci en ceci qu'elle se présente comme toujours d'avant elle. Nous recevons l'ordre qui nous tient ensemble et nous avons à le transmettre tel que nous l'avons reçu. C'est en ce sens que les sociétés de religion sont des sociétés de tradition. Dans un sens bien plus profond que ce que nous mettons spontanément sous ce terme désormais. Il ne s'agit pas que d'un système de croyances et de représentations. Cette supériorité et cette antériorité du fondement se traduisent dans une organisation du lien collectif. Elles se concrétisent ainsi d'abord dans une forme de pouvoir dont la royauté constitue l'illustration exemplaire. Un roi, c'est l'incarnation dans une personne de cette imposition du principe d'ordre d'avant et du dessus. Elle se concrétise ensuite dans une forme du lien de société. La forme hiérarchique, diffusant l'extranéité du fondement dans le tissu entier des relations entre les êtres, sous l'aspect des dépendances et des attaches organiques du supérieur et de l'inférieur. Ce sont les inégalités de nature entre les êtres qui les tiennent liés. Elles se concrétisent enfin dans une forme globale des communautés, que l'on peut dire holiste, en reprenant le concept de Louis Dumont. Holiste, c'est-à-dire à base de primauté du tout sur les parties. C'est tout ce système qui bascule entre 1750 et 1850 avec le transfert du temps légitime du passé vers l'avenir, avec la réorientation futuriste de l'expérience collective. Il bascule comme système de représentation et comme système d'organisation en fonction de l'avancée de la conscience que le monde humain se produit dans le temps. Le mouvement, j'y insiste, est indissolublement pratique et théorique. Il se traduit par un nouvel agencement du collectif. Une société qui découvre qu'elle se produit dans le temps est une société qui va ambitionner de délibérément se produire, qui va s'organiser sous l'ensemble de ses aspects en vue de sa propre production. D'où l'explosion du rythme du changement qui accompagne l'avènement de la conscience du changement. Ce redéploiement sous le signe du changement entraîne le renversement trait pour trait de ce que nous avons défini comme organisation religieuse. Il modifie complètement l'ordre des priorités entre pouvoir et collectivité. Autant le pouvoir primé et dominé à l'âge religieux de l'extériorité et de l'antériorité du fondement, puisqu'il en était le truchement parmi les hommes, autant à l'âge de l'histoire, c'est la société qui va primer. Le premier effet de la découverte du caractère producteur du devenir va d'ailleurs être d'amener la formation et le développement de cette notion de société en tant que source et foyer de ce dynamisme créateur. Cette notion de société qui nous est familière ne date que du XIXe siècle. Dans le monde religieux, la priorité est un pouvoir, et la priorité, pardon, est au pouvoir en tant que puissance d'ordre. Dans le monde historique, la priorité passe à la société en tant que puissance de changement, puissance de mouvement. L'idée du gouvernement légitime s'en trouve entièrement changée. Il ne peut que procéder de la société et avoir pour fonction de répondre à ses besoins. En d'autres termes, le basculement vers l'avenir entraîne avec lui la légitimation du gouvernement libéral et représentatif. Représentatif parce qu'il doit émaner expressément de la société, libéral parce qu'il doit respecter la différence de la société en tant que puissance collective d'invention, distincte de lui. Nous voyons naître ici la politique au sens rigoureux du terme, elle fait le lien entre la société et le gouvernement. Elle correspond au domaine de la délibération collective autour de la désignation et du contrôle des gouvernants, compte tenu des changements survenus et des changements à produire dans la société. C'est dans cet espace du débat politique que représentations et croyances idéologiques vont trouver à se déployer. L'idéologie va être le discours de la société sur elle-même, chargé tout à la fois d'expliquer son histoire, de justifier les choix appelés par son travail politique sur elle-même et de fournir une définition ou une figure plausible de l'avenir. On voit dès lors quelle va être l'originalité de ce discours. Elle tient à la bigarrure constitutive de sa formule et à sa multiplicité de fonctions. L'idéologie mêle par nature trois composantes. En premier lieu, une société qui se comprend sous le signe de son autoproduction dans la durée a besoin d'une explication du mouvement du devenir qui l'engendre. Une explication immanente, par opposition aux justifications transcendantes de la religion. Elle doit s'appuyer sur une théorie de la société rendant compte des facteurs et des forces qui expliquent cette dynamique. C'est la partie rationnelle et nécessairement rationnelle de l'idéologie. Mais en deuxième lieu, cette société tournée vers l'avenir est une société qui a tout autant besoin de savoir vers quoi la mène cette dynamique qui émane d'elle. C'est ici que nous retrouvons la croyance. L'avenir n'est pas moins inscrutable que l'au-delà. Il y a un invisible purement terrestre, purement humain, qui appelle tout autant la spéculation et la foi que l'invisible céleste, et qui se prête au recyclage des attentes investies dans l'au-delà. L'explication rationnelle du passé et du présent compose de la sorte avec la croyance dans l'avenir, donc avec la foi et l'espérance dans le futur. Troisième composante, enfin, cette idée du passé et cette image de l'avenir s'appliquent au présent sous forme d'options politiques à court terme, à moyen terme et à long terme. Le débat politique est un débat sur le changement possible et sur le changement souhaitable. Toute idéologie sera ainsi un mélange de ces trois choses, dans des proportions très variables, et selon des modalités plus ou moins stables et plus ou moins cohérentes. Toute idéologie combinera de manière plus ou moins harmonieuse des éléments de théorie sociale, des préférences politiques et des convictions quant au futur. Elle fera cohabiter, tant bien que mal, la prétention scientifique, l'obligation du réalisme politique et l'ambition prophétique. La plus grande rigueur rationnelle pourra y voisiner avec l'espérance eschatologique la plus débridée. Il faut souligner, il est essentiel de souligner contre la prétention naturelle des idéologies à la science ce qu'a d'irréductible la part de la croyance dans la politique des modernes. Elle peut être plus ou moins grande, mais elle est inéliminable. Elle est inhérente à l'orientation vers l'avenir, dont nul ne sait ce qu'il sera, et que nous ne pouvons appréhender que sur le mode de la conjecture, de la spéculation, de la conviction, en un mot, que par le sceau de la croyance. Une croyance susceptible d'être rationalisée, mais irréductiblement croyante néanmoins au-delà de toute rationalisation. Cette sommaire anatomie suffit à faire pressentir une propriété essentielle de l'idéologie sur laquelle je ne puis malheureusement m'étendre. Je devrais me borner à l'indiquer. Le discours et la croyance idéologique sont par nature pluriels et contradictoires. L'ère de l'idéologie coïncide avec la fin de l'âge de l'unité des esprits, tant déplorée par tant de penseurs du XIXe siècle. J'aurais voulu pouvoir montrer ici comment s'installent en Europe, entre 1815 et 1848, les trois grandes idéologies entre lesquelles vont se partager les esprits jusqu'à nous, avec des transformations jusqu'à nous, c'est-à-dire le conservatisme, le libéralisme et le socialisme. Les idéologies, en effet, ce sont les ismes. C'est à ce suffixe que se marque dans le langage l'orientation futuriste et le caractère programmatique des nouveaux systèmes de représentation et de conviction. Mais j'ai dû choisir, dans le temps qui m'était imparti, et j'ai choisi, à tort ou à raison, de donner la préférence à une vue cavalière, très cavalière, des trajectoires parallèles de la croyance religieuse et de la croyance politique depuis le moment où cette dernière apparaît sous les traits de l'idéologie. Vous me pardonnerez son caractère d'esquisse. Il ne faut pas imaginer, vous vous en doutez, une substitution instantanée d'un mode de croyance et d'un type de discours à l'autre. La religion ne s'évanouit pas par magie du jour au lendemain. Simplement, elle perd, brutalement ici, insensiblement ailleurs, elle perd sa fonction politique, son statut d'autorité légitimatrice suprême. Et d'autre part, elle se trouve en concurrence avec un discours radicalement opposé à ses prémices, à l'intérieur d'un monde social qu'elle n'englobe ni ne norme plus. Si nombreux, voire majoritaires, que soient les croyants. Une situation et un discours qui vont peu à peu, très lentement, la contaminer et la transformer. Cette transformation va revêtir un double aspect. D'un côté, la pensée chrétienne va se convertir insensiblement à l'idéologie ou se couler dans le langage de l'idéologie. L'idéal traditionnel de la société chrétienne, que cette pensée oppose de façon virulente à la société sans Dieu, comme elle dit, va se formuler dans un langage subrepticement historique et séculier. Le premier pas en ce sens est accompli dès pendant la Révolution française par les penseurs contre-révolutionnaires, Louis de Bonald en particulier. C'est ce qui va en faire, comme il est bien connu, les initiateurs inattendus de la pensée sociologique. Ils plaident pour la restauration de la vérité sociale et politique de la religion chrétienne. Mais ils plaident sur la base, en fait, d'une analyse interne et naturelle des nécessités du mécanisme social et politique. Ils introduisent à leur propre insu, un facteur d'immanence à l'intérieur de la politique de la transcendance. Un facteur d'immanence qui ne va cesser de progresser à travers tout le XIXe siècle. De l'autre côté, la religion comme conviction va se redéfinir tout aussi lentement et insensiblement, mais irrésistiblement, comme croyance religieuse, comme croyance individuelle, comme opinion, parmi d'autres opinions possibles, à l'intérieur de l'espace de confrontation proposé par le débat public et le suffrage politique. Deux moments forts se détachent, me semble-t-il, dans ce parcours adaptatif de la croyance religieuse sur deux siècles. Le moment 1900, pour faire court, et le moment présent. Au cours de ces années fertiles qui vont de 1880 à 1914, et dont 1900 représente la date épicentre, on assiste ainsi à deux évolutions significatives. On assiste d'une part à l'achèvement de la conversion de la pensée religieuse en idéologie. On assiste, d'autre part, à l'insertion des masses croyantes dans le jeu politique de la démocratie libérale en voie à cette époque de constitution. La contre-révolution devient révolutionnaire en devenant nationaliste. Elle donne une interprétation purement rationnelle et naturelle de la forme de la société religieuse. Forme monarchique, hiérarchique et communautaire. Cette forme de la société religieuse qu'elle entend rétablir. Elle pense, autrement dit, la forme religieuse sans religion. C'est le signe que la pensée qui se veut et se croit traditionnelle a totalement rejoint, en réalité, les prémices intellectuelles de la société historique et libérale qu'elle entend combattre. Cela dans le temps où, par ailleurs, la foi entre dans la politique démocratique, sous l'aspect des partis chrétiens, qui font des chrétiens, des croyants, une force à l'intérieur du pluralisme collectif. Mais cela en tant qu'électeurs manifestant individuellement leur opinion et leur option qui les singularise en tant qu'individus. Les églises ne font plus figure que de composantes d'une société civile libre de s'organiser sur la base des adhésions volontaires de ses membres. Depuis une trentaine d'années, depuis les années 1970, nous sommes témoins d'une évolution supplémentaire de grande ampleur. D'abord, l'idée de société religieuse, telle qu'on l'a définie, a perdu à peu près tout sens. La figure de l'hétéronomie nous est devenu presque impensable et son appel est désormais pratiquement inaudible. Ensuite, les croyants sont à ce point entrés dans l'espace du pluralisme et de l'autonomie démocratique. La croyance est devenue à ce point une foi individuelle que son sens s'en trouve changé. Le lien entre croyance religieuse et ordre social se défait. La foi ne dit rien en tant que telle de l'organisation sociale et politique. Elle laisse son titulaire, libre de sa croyance idéologique par ailleurs. Son objet est d'un autre ordre. Mesurons la portée de cet événement que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train d'assister, non pas à la fin de la croyance religieuse, mais à la fin de la religion dans sa fonction immémoriale de définition des communautés humaines. La croyance religieuse entre dans un nouvel âge par rapport à ce qui fut sa nature et sa fonction depuis toujours. Pas plus que la religion ne disparaît subitement, l'idéologie, maintenant, ne naît armée de pied en cap. Elle se forge et se formule petit à petit dans ses différentes variantes. J'ai fait allusion tout à l'heure à la phase primordiale de sa définition, 1815-1848. Elle se déploie avec le déploiement de la société de l'histoire, du changement, de l'autoproduction, dont elle répond aux exigences cognitives. une société toujours largement pénétrée de religion pendant longtemps, profondément imprégnée de religion à un niveau bien plus profond que la croyance explicite. L'idéologie va se ressentir profondément de l'empreinte de la religion pendant longtemps. L'histoire de la croyance politique sur deux siècles va être l'histoire de sa complexe émancipation par rapport à cet héritage religieux pesant sur elle et insistant en elle. Pour sa partie principale, cet héritage n'a pas l'aspect d'un contenu explicite. Il a l'aspect d'une forme implicite, ce qui le rend si difficile à saisir. Au-delà de la forme religieuse explicite, telle que nous l'avons définie et telle que nous l'avons vue fonctionner comme un idéal dans la pensée contre-révolutionnaire, monarchie, hiérarchie, communauté, il y a en effet une forme implicite plus profonde encore, dont ces rouages monarchiques ou hiérarchiques ne sont que des instruments. On peut l'appeler la forme de l'un, à l'origine l'un du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible, grâce justement au pouvoir médiateur. L'un parla du corps collectif et du pouvoir, et l'un des hommes entre eux, au sein du corps collectif. L'étonnant de l'histoire de la croyance politique et que cette forme implicite va se révéler capable de survivre à la destruction de ces instruments explicites et même à leur répudiation expresse. Cette forme va hanter les esprits les plus anti-monarchiques, les plus égalitaires, les plus individualistes, les plus anti-religieux, à travers tout le XIXe siècle et au-delà, durant au moins le premier XXe siècle. Elle va fournir le moule intellectuel contraignant dans lequel va se couler et se formuler l'idée de son contraire. L'idée d'une histoire faite par les hommes et tournée vers l'avenir. L'avenir va se charger précisément de la promesse d'une restauration ou d'une instauration de l'unité collective. Les idéologies seront pour une notable part des discours sur les conditions et les moyens de cette unité future. D'autant plus cette aspiration implicitement religieuse à l'unité collective va-t-elle prendre de l'ampleur au cours du XIXe siècle, que la société de l'histoire se révèle être en pratique et de plus en plus une société qui fonctionne à la séparation, à la dissociation, à la division. Elle sépare, on l'a vu, la société civile et l'État. Elle disjoint les individus. Elle dissocie les communautés. Elle divise le travail toujours davantage. Elle oppose les intérêts. Elle met, pour finir, les classes aux prises. en regard l'espérance placée dans un avenir de réconciliation ne peut que se renforcer. Par ailleurs, le déploiement de la société de changement, s'il brise l'unité collective, a pour effet d'entraîner l'approfondissement de l'idéologie dans son aspect immanent. Il accrédite l'idée que la société des hommes se fait décidément elle-même et se fait dans toutes ses parties. Il n'est rien parmi nous qui ne relève du travail de l'histoire. Ce faisant, il donne corps à la perspective d'un acte par lequel elle achèverait de se faire en se maîtrisant consciemment en sa totalité. Un acte de rupture révolutionnaire qui marquerait la fin de l'histoire en même temps que l'avènement de l'unité collective. C'est ainsi qu'à un moment de sa trajectoire, dans cette même période 1880-1914 dont nous avons vu l'importance pour l'histoire de la croyance religieuse, l'approfondissement séculier de l'idéologie rencontre l'héritage religieux de l'un pour donner cette très étrange croyance politique que l'on a pu nommer, à bon droit, je crois, religion séculière. Séculière, puisqu'elle ne croit qu'en l'action des hommes et qu'à la puissance de la société de se faire elle-même. Et religion, néanmoins, implicitement, par la nature et la forme attribuée à cette puissance sur soi à venir. Contre la religion, explicitement, puisque c'est de la réalisation et de la réalisation intégrale de l'autonomie et de la société autonome qu'il s'agit. Mais selon les voies et les moyens de la religion, implicitement, puisque c'est l'héritage de l'hétéronomie qui guide de manière sous-jacente l'entreprise. C'est ce qu'il adviendra de cet accouplement tératologique. Mais l'histoire ne s'arrête jamais. Les religions séculières n'auront été qu'un moment de la trajectoire des idéologies. Nous les avons vues mourir sous nos yeux au cours de ces 30 dernières années, parallèlement aux transformations qui ont achevé de faire entrer la croyance religieuse dans l'univers de l'autonomie démocratique. Il ne faut pas en conclure précipitamment à la fin de l'idéologie ou des idéologies, mais à sa transformation ou à leur transformation. Cette inflexion est sans mystère. Il ne faut pas aller en chercher la source ailleurs que dans un nouvel approfondissement de la conscience de l'histoire et du dispositif pratique de changement et d'autoproduction de nos sociétés. C'est le travail même de l'histoire qui avait rendu possible la religion implicite de l'histoire à un moment donné, c'est lui qui l'a détruite. Il a rendu impensable la figure de la fin de l'histoire. Et il a dissous simultanément les prestiges tellement obsédants de l'un collectif. Nous nous trouvons ainsi, et c'est dans ce point que je conclurai, à un moment remarquable de l'histoire de la croyance religieuse et de la croyance politique. La croyance religieuse est en train de cesser d'être politique, ce qui lui ouvre un autre avenir. Et la croyance politique est en train de cesser d'être religieuse, ce qui nous fait entrer dans un nouvel âge de la politique et plus largement dans un nouvel âge de l'action historique. Je vous remercie de votre attention.
Je tiens à remercier le conférencier pour son exposé d'une clarté remarquable. Il y a simplement un point qui me soucie, c'est l'ambiguïté du mot libéral et libéralisme que certains prennent sur le plan économique et que d'autres, dont je pense le conférencier, prennent sur le plan du respect de la liberté de l'individu, quel que soit son statut économique.
Vous m'avez bien entendu. Pour dissiper toute ambiguïté à ce propos, il faut considérer que dans libéralisme, il y a deux aspects. Il y a dans nos sociétés un fait libéral. Nos sociétés sont de fait libérales, et par le respect des libertés individuelles, et par le respect de la différence société civile-État, qui est encore une autre affaire. C'est en ce sens-là que j'ai parlé non pas du libéralisme, autrement dit, comme doctrine et comme programme, mais du fait libéral, qui est une extrapolation à partir du fait libéral, une extrapolation programmatique, voulant élargir les conséquences du fait libéral. Donc, vous aviez bien compris.
Monsieur.
L'analyse que vous venez de développer apparaît effectivement très pertinente et performante. Elle reproduit un petit peu votre dernier bouquin. Mais qu'en est-il lorsqu'on quitte l'Hexagone ? Sans aller chercher trop loin en Asie, en URSS, mais en Amérique, Amérique du Nord tout particulièrement. Quels paramètres faudrait-il changer éventuellement pour que votre modèle puisse s'appliquer ? Merci. Alors,
j'ai pris soin, même brièvement, de le préciser. Vous l'avez bien entendu, que mon propos avait pour zone de référence l'Europe. En effet, si on élargit l'objectif, les données du problème changent totalement. Avec un cas intermédiaire, qui est l'Amérique du Nord, les États-Unis en particulier, où en effet on a la haute modernité technologique, démocratique, rationnelle, et néanmoins une force particulière de la croyance religieuse qui demeure. Et d'autre part, le cas où des religions asiatiques, ou tout près de nous, naturellement, vous avez eu la pudeur de ne pas prononcer le nom, mais tout le monde y pense, naturellement, et c'est normal. Le cas de l'islam, où, évidemment, le cas de figure est opposé, apparemment opposé à celui que je décris. Vous vous doutez que je ne... Une longue conférence suivante ne suffirait pas à traiter la question, mais je peux au moins indiquer ce qui me paraît être la bonne manière de prendre la question. C'est que le processus que je décris là me semble à l'œuvre partout, mais il ne suscite pas, il ne se présente pas partout les mêmes effets, et il ne suscite pas partout les mêmes réactions. Dans le cas de l'Amérique du Nord, il y a une histoire complexe qui explique la prégnance de la religion dans une société qui demeure, ne l'oublions pas, pour s'en tenir à ce seul élément d'explication, la dernière nation messianique de l'histoire. Mais il faut faire très attention, parce qu'on est en train de s'apercevoir que cette exception américaine est bien moins exceptionnelle qu'on ne le dit, et qu'en fait, la logique que les sociologues des religions appellent sécularisante est à l'œuvre, activement, dans la société américaine d'aujourd'hui, avec des effets qu'on commence à percevoir. Quand je ne prendrai que le cas de l'islam, parce qu'il est le plus sensible et le plus spectaculaire, puisque c'est sur lui qu'on nous base les théories de la revanche de Dieu ou du retour de la religion que nous attendons pour le XXIe siècle, c'est bien connu. Je crois que les fondamentalismes religieux ne correspondent pas du tout à des retours de la structuration religieuse telle que je l'ai définie, mais à une étape que nous avons connu par le passé, sous des formes très différentes, parce que notre histoire est différente, de cette adaptation forcée de la croyance religieuse aux conditions de la modernité, qui simplement dans ces sociétés sont particulièrement mal ressenties parce qu'elles arrivent comme une agression culturelle extérieure. La violence des réactions soulevées n'a rien de très extraordinaire quand on veut bien considérer ce paramètre. Donc, je crois qu'avec tous les aménagements possibles, la ligne d'analyse proposée s'applique aussi à ces cas avec des configurations qu'il faudrait chaque fois détailler.
Pour en revenir aux croyances, si j'ai bien suivi la trajectoire qui a été exposée, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à dire que la dernière croyance, la croyance résiduelle, en quelque sorte, ne serait pas la croyance en l'histoire?
Cette croyance-là, elle a de solides atouts pour elle. Donc, elle est un peu plus qu'une croyance, parce qu'elle relève dans notre société, non pas simplement de représentation et de conviction, mais d'un faire collectif, d'une orientation pratique de nos existences, qui toutes sont ordonnées sous le signe prévisionnel. Nous vivons dans des sociétés assurantielles, donc, qui calculent le risque futur, dans des sociétés providentielles, qui se préoccupent d'assurer la protection des individus dans le temps. Nous vivons dans des sociétés tournées en pratique, au quotidien, dans toutes leurs organisations, vers l'innovation. C'est ça l'histoire, c'est pas une idée, c'est d'abord une croyance, c'est d'abord une façon de faire, une manière dont s'organise l'action de tout le monde, de chacun d'entre nous, au quotidien. Alors, en ce sens-là, elle est effectivement assez irréductible, mais ce serait une erreur de dire « ce n'est qu'une croyance », donc les croyances peuvent disparaître. Ça ne veut pas dire qu'une autre orientation de société n'est pas possible, mais on ne peut pas, cette croyance à l'histoire, la traiter simplement comme de l'ordre de la représentation. Il faut l'ancrer dans la réalité sociale.
Alors, avant les deux dernières questions, j'intercale deux questions qui remontent de Laval. Hein, j'avais dit qu'il y avait une retransmission Internet satellite. Alors, donc je les lis. La première, si j'ai bien compris, l'idéologie est le résultat de la conception d'un monde sans Dieu. Toutes les idéologies du XXe siècle, entre parenthèses, fascisme, nazisme, communisme, ont abouti à des dictatures. Point. Pourquoi ?
Je les donne telles quelles. Elles n'ont pas abouti à des dictatures. Elles se proposaient pour but la dictature. Donc, c'est pas extraordinaire qu'elles aient fait ce qu'elles annonçaient. Elles avaient le parfait mérite, le seul d'ailleurs, mais le vrai mérite de la franchise sur la nature des moyens qu'elles se proposaient d'utiliser. Elles les avaient éventuellement un peu embellis. Mais on ne peut pas dire qu'on a été vraiment trompé sur la marchandise. Et pourquoi cette dictature? Parce qu'elle est dans la cohérence d'une science de l'histoire qui refuse d'être une croyance, mais qui se donne pour l'aboutissement du parcours de l'histoire et qui justifie donc le déploiement d'une organisation armée d'un savoir qui commande l'ensemble de l'activité sociale. Donc, il leur est inhérent de se penser sur le mode de ce qui est en fait infiniment plus que la dictature. La dictature, ça peut être simplement un régime d'autorité qui ne se tracasse pas beaucoup de doctrines. La particularité des dictatures du XXe siècle, c'est d'être des dictatures idéologiques, c'est-à-dire des dictatures qui font régner une autorité, prétendent faire régner une autorité absolue, pas simplement verrouiller les oppositions, une autorité absolue au nom d'une science de la construction de la société.
Je crois que c'est la réponse. Alors, deuxièmement, est-ce que le politiquement correct actuel est l'aboutissement d'une croyance quasi-religieuse au laïcisme teinté de marxisme ? Non, mais je crois que c'est... On vous a bien écouté à la...
Alors, je crois que ce que l'on appelle le politiquement correct participe en effet des transformations actuelles de l'idéologie, en effet, mais de transformations de l'idéologie qui me semblent n'avoir rien à faire ni avec le laïcisme et encore moins avec le marxisme. Là, je crois que justement, c'est la disparition du marxisme et du laïcisme, d'ailleurs, qui explique l'avènement d'une nouvelle configuration de l'idéologie centrée, elle, sur les droits de l'homme et dont le politiquement correct est une version plus ou moins dégradée ou en tout cas investi dans la politique au jour le jour.
Oui, monsieur, pardon. Vous nous avez parlé donc tout ce soir de l'évolution de la croyance et des progrès de l'individualisme, pour tenter de résumer la richesse de vos paroles.
De façon sous-jacente, oui.
Mais vous n'avez absolument pas parlé de la liaison, j'allais dire, de l'évolution des croyances et de l'évolution des sciences et des techniques qui, me semble, conditionne de plus en plus l'homme et conditionne aussi ses croyances.
Oui, vous avez tout à fait raison. En effet, vous vous doutez bien que l'une des gageures de ce genre de conférence, c'est de ne devoir parler que d'un très petit nombre de choses. On choisit les principales. On peut d'ailleurs tout à fait se tromper sur celles qu'on juge être les principales. Mais ce que vous dites me permet de rebondir sur ma proposition précédente. Le côté, contrairement à tout, c'est probablement ce dont Daniel, ma collègue Daniel et ami, Daniel Arvieux-Léger, vous a entretenu il y a quelques jours, parce que c'est le sujet sur lequel elle a beaucoup travaillé, le côté remarquable du progrès des sciences et des techniques, du point de vue du fonctionnement social global, et c'est là qu'on voit la place de la croyance, n'a pas été du tout, comme le croyaient les Lumières dans leur naïveté, de rationaliser l'image du monde et de le désenchanter. Au contraire, le pouvoir des sciences et des techniques n'a cessé de susciter de la croyance, d'en fabriquer, de la relancer, de lui donner une effervescence supplémentaire du mode de la science-fiction, devenu un des genres majeurs de l'imaginaire de nos sociétés, qui est une extrapolation sur l'avenir à partir d'un état des sciences et des techniques, jusqu'aux figures de l'apocalyptisme contemporain. S'il y a quelque chose comme une idée de l'apocalypse qui vit, elle est scientifique et technique. Donc on voit bien là comment l'activité la plus rationnelle, la science, engendre de la croyance et ne peut pas s'en passer. Et Dieu sait, toutes les études de sociologie menées sur le monde scientifique montrent cette chose étonnante, que les scientifiques sont les gens qui croient le plus, en particulier qui ont le plus de croyances qu'on qualifie d'irrationnelles ou de paranormales. C'est dans ce milieu de la rationalité quotidienne que la tendance à l'extrapolation irrationnelle est la plus vigoureuse. Voilà ce qui nous montre que nous avons à réfléchir sur la croyance.
Un grand merci. Bravo.